Dieudonné qui jouait Napoléon.
Absolument, il avait joué Bonaparte, il avait joué Napoléon, tout ça, dans les films de Gans.
Arletty.
Mais moi, je ne le reconnaissais pas dans l'ombre, vous savez, on était dans l'ombre, je ne le reconnaissais pas du tout de ses créations. Il n'y a pas longtemps que je tournais dans La Garçonne, je ne sais pas à quelle date je tournais La Garçonne.
Une histoire particulière. Un jour de mars 1976, dans le minuscule village de Courset, en Touraine, on inhume un homme de 86 ans qui a expressément demandé à être enterré dans le costume de Napoléon Bonaparte. Cet homme, c'est Albert Dieudonné. Était-il donc fou ? Il ne se promenait pas une main dans son gilet et un chapeau gris sur la tête, mais il avait malgré tout été l'empereur en jouant le rôle de sa vie dans le film d'Abel Gance en 1927. Et on n'est pas impunément Napoléon Ier. Plongeons pour ce second épisode avec Marc Guidoni et Laurent Polleret dans le rôle lui-même et cette mystérieuse alchimie de l'incarnation d'un acteur dans son personnage, juste le temps d'un film.
Albert Dieudonné qui jouait Napoléon.
Absolument, il avait joué Bonaparte, il avait joué Napoléon, tout ça, dans les films de Gans.
Arletty.
Mais moi je ne le reconnaissais pas dans l'ombre, vous savez, on était dans l'ombre, je ne le reconnaissais pas du tout de ses créations. Il n'y a pas longtemps que je tournais dans La Garçonne, je ne sais pas à quelle date j'ai fait La Garçonne. Alors je regardais comment ça se passait, j'étais un peu partout. Puis je venais vers lui, je disais ça c'est bien, tiens, très intéressant. Alors il me disait, oh, intéressant, vous savez... Enfin, on voit qu'il n'y a pas longtemps que vous travaillez. Hein. Ah oui, je sais pas, moi je trouve que c'est bien. Comment voulez-vous que ça m'intéresse? Quand on a commandé à 6000 hommes à la plaine d'Iéna, ah ben moi je commence à... Là, je n'y étais plus du tout. Plus du tout. Alors je m'éclipse un peu, puis je rencontre Delimur. Je dis, dites-moi le garçon qui est là. Qu'est-ce qu'il a? Il me dit qu'il a commandé à 6000 hommes sur la plaine d'Iéna. Je dis, bien sûr, c'est Napoléon. Mais je dis, ils sont tous cinglés dans ce film.
Je peux comprendre qu'en ayant joué Napoléon, il ait eu envie d'y rester.
Philippe Cobert, comédien et metteur en scène.
Parce que c'est un homme de pouvoir. C'est pas du tout pareil de jouer Molière. C'est-à-dire, quand je joue Molière, je joue ce que je suis, un acteur, un comédien. Je joue vraiment la racine de ce que je suis, et en plus le passé. Et en plus, ça m'inspire, puisque je vous dis, moi, dans mon travail, j'ai tout simplement eu envie de faire comme Molière, moi, d'écrire des comédies humaines, avec des situations, des personnages, et... Mais quand on joue Napoléon, là, on joue un homme de pouvoir, de guerre, c'est un vertige, c'est sans issue.
L'homme qui voulut être Napoléon, deuxième partie, le vertige intérieur.
On a beaucoup dit sur moi que je me croyais Napoléon, même dans la vie réelle. Ce qui est tout de même un peu excessif.
Albert Dieudonné.
Mais effectivement, je me suis cru Napoléon. Mais je me suis cru Napoléon au moment où je me trouvais sur le studio, quand je répétais, et surtout quand les caméras tournaient. Là, vraiment, je me croyais Napoléon. D'ailleurs, n'est-ce pas le génie d'un acteur de se croire le personnage qu'il représente, n'est-ce pas ? Évidemment que... Lorsque les feux sont éteints, on ne peut pas brusquement retomber dans la vie normale, dans la vie courante. On a, sans se croire le personnage que l'on a créé, ce personnage, malgré tout, a une emprise sur vous.
Pour bien retomber sur ses pattes, il faut aussi, je pense, être dans un bon état de santé. Hein.
Thierry Frémont, comédien.
Je pense que si on a un acteur qui, déjà à la base, peut être sur la tangente d'une vraie santé mentale, etc., je peux comprendre qu'il y a un glissement et sur une pente qu'on ne puisse pas refranchir de l'autre côté. Ouais. Ça, je le comprends très bien.
Thierry Frémont, vous êtes allé particulièrement en profondeur dans le personnage de Francis Holm, dans ce film qui s'appelle d'ailleurs « Dans la tête du tueur » et qui vous a valu un Emmy Award. Comment est-ce qu'on se désimprègne d'un personnage comme celui-là ?
J'ai compris qu'il fallait vite que je retrouve moi, un peu de poésie. Donc moi, je suis plongeur, je suis parti faire la plongée sous-marine. Mmh. C'est retrouver la légèreté, la beauté... Plus de poids de corps. Il a fallu que je passe par ce, palier de décompression.
Comment est-ce qu'on travaille pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'un personnage comme celui-là ?
On établit un petit protocole, une espèce de bible qui va nous rassurer, qui nous fait croire, mais qui ne fait que ça, qui nous aide à nous faire croire à nous-mêmes, déjà les premiers, qu'on est proche de ce qu'est le personnage qu'on doit devenir. J'étais vraiment dans une bulle, donc c'était un peu tout le temps en fait, quelque part. Moi j'avais la tête de Francis Holm partout dans l'appartement, suivant les photos que j'avais pu glaner et qu'on m'avait pu me donner, suivant les périodes, le papier peint chez moi il était curieux, hein. C'était ça. Donc j'avais besoin même que quand je ne travaillais pas, que ça soit dans ma vision périphérique, finalement que ça continue à travailler tout le temps. J'étais en phase de travail, c'était au mur, donc ça c'était dans ma vision, donc ça infusait quand même quelque part d'une certaine façon. La première fois qu'ils m'ont vu sortir de la caravane pour le premier jour de tournage, ils ont tous été un peu... Ah ouais, il a été jusqu'à là, quoi. Ils ne s'attendaient pas, ils ne savaient pas. Et physiquement, je crois que j'étais assez loin dans l'incarnation du personnage. Et puis même après, dans la façon de parler, dans la façon de répondre, dans la façon d'être, ça les a un peu séchés. Donc ce qui fait, c'est instaurer un truc très vite, c'est que quand j'attendais entre les prises dans la caravane, après, quand ils venaient me chercher, ils toquaient à la porte, ils ne me parlaient même pas, ils sortaient, et là, il est dans le micro. Donc il y avait un truc bête, bizarre, on ne parle pas, et t'en approches, quoi. Et donc ça m'aidait, moi, à savourer ça, quoi. J'ai eu ça. Je l'ai senti. Ce moment où on se dit, tiens, je suis Francis Holm, là, je comprends, là, lui, je peux le tuer, là. Là, je le tue, là. Tiens, là, je peux comprendre. Et... Putain, je fais quand même un métier fantastique qui me permet de toucher du doigt ce truc-là. Un truc complètement déviant, hein, pervers, tout ce qu'on veut, hein, c'est clair. Hein. Mais si on fait pas acteur pour ça, c'est pourquoi, quoi. C'est pour ce jeu. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas fait ce métier pour me jouer moi-même. C'était même plutôt au contraire pour me fuir moi-même. Donc, Dieu merci. Donc, j'étais plutôt content de me dire, ah oh, putain, je peux comprendre cette sensation totalement bizarre de me dire, ah, lui, je le tue. Là.
Est-ce que c'est pas un jeu un peu dangereux pour un acteur de s'incarner dans un personnage qui n'est pas lui ?
Moi, je dirais que ça dépend ce que ça va rencontrer en vous.
Jean-Pierre Salvarelli, psychiatre.
Le rôle n'existe pas à partir du moment où vous ne l'avez pas encore incarné. Donc vous allez incarner avec ce que vous êtes. Et c'est la rencontre entre ce que vous êtes et le supposé personnage qui fait cette alchimie étrange et bizarre. Le rôle en lui-même... Napoléon, le rôle n'existe pas. Il y a eu énormément de gens qui ont incarné le rôle. Ils se sont pas tous fait enterrer en habit napoléonien, quoi. Je pense que c'est un lien avec leur psychopathologie personnelle. Il y en a qui, pour jouer un boxeur, sont capables de prendre du biscotto, de s'entraîner, ou pour jouer un mafioso, de prendre 30 ou 40 kilos. Et puis il y en a qui, il suffit de rentrer dans le rôle comme ça. Il y en a qui vous expliquent que ils s'habillent toute la journée avec le rôle, ils mangent comme le rôle, et puis d'autres non. Il y a des acteurs et des actrices célèbres qui, enfin, tout le monde sait que sur un tournage, il fallait qu'elle ou qu'il tombe amoureux de son partenaire comme il était amoureux dans le film. Voilà. Et parce que dans la figure où il s'identifie au personnage, il était complètement le personnage sans la distanciation qui peut rester. Vous voyez bien que la question de la pathologie, elle est à la limite là.
Et Albert Dieudonné? Par rapport à ce rôle de Napoléon?
Je pense qu'il avait une distance par rapport à ça. Enfin, moi, ce que j'ai pu lire sur les histoires, c'est que, bon, c'était pas un délire, au sens psychopathologique. Ce qu'il avait une distance qui se réduisait, qui s'augmentait par rapport à cette figure identificatoire. Et je pense qu'il n'a pas pu s'en décoller. Il a commencé à jouer l'empereur une quinzaine d'années avant, quand même, hein. Il a commencé au théâtre, c'est-à-dire que c'est un rôle, c'est quelque chose qu'il a habité pendant très 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 longtemps. La ressemblance à Napoléon de Dieudonné, moi, m'a toujours intrigué, quoi. Et comment peut-on se déprendre d'une figure identificatoire qui peut vous permettre d'imaginer que vous êtes tout-puissant ? Ben, c'est pas si facile que ça, hein.
C'est vrai qu'il y a des rôles qui sont plus difficiles à quitter que d'autres. Et celui-là, j'y suis restée très attachée.
Sandrine Bonner, comédienne et réalisatrice.
Chaque actrice rêve de jouer Jeanne d'Arc. Il y a Falconetti qui l'a joué, il y a Bergman qui l'a joué. Alors je fais jamais de transfert avec mes personnages, heureusement d'ailleurs, parce que comme je joue pas mal de rôles dramatiques, je pense que je finirai en psychiatrie si j'étais... J'ai une tendance à, le soir quand je rentre du tournage, j'aime la vie et je quitte le personnage. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui habitent plus que d'autres. et celui-là en particulier. Mais je pense qu'il y a des choses inconscientes qui se passent malgré tout, parce que là, je vais vous raconter un truc assez drôle, c'est que pendant ce tournage, quand même, cette Jeanne d'Arc qui entend des voix, je me suis quand même fait un bouchon de cire dans l'oreille. Et j'ai fini à l'hôpital. Et d'ailleurs, sur le tournage, on me disait « Jeanne, est-ce que tu entends toujours les voix? Est-ce que tu entends toujours Sainte-Catherine ?» J'avais terriblement mal à l'oreille et j'ai été hospitalisée pendant une nuit. Et la deuxième chose, alors ça c'est plutôt un événement heureux, c'est que donc cette Jeanne d'Arc qui était pucelle, ben moi je suis tombée enceinte. J'ai eu ma... D'ailleurs je l'ai appelée Jeanne, ma première fille. J'ai été enceinte à la fin de plus ou moins les trois dernières semaines de tournage, j'étais enceinte. Bien sûr, je voulais un enfant, ça n'a pas été un accident, mais je ne pensais pas que je serais enceinte aussi rapidement. Donc je pense que le corps, quelque part, la pensée, je ne sais pas, l'inconscient, en tout cas, ça, je pense qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui impacte sur ce qu'on est, quoi. J'ai lu des passages de la Bible, je suis allée dans des églises, j'ai cherché une forme de recueillement. J'ai lu la Bible aussi parce qu'elle a beaucoup de prières. C'est une femme qui priait, donc je voulais un peu sentir les effets presque physiques. Pour moi, chercher le recueillement, c'était d'être en connexion avec elle. Parce que je ne l'ai jamais cherché avant. Les personnages que j'interprète, ils sont presque plus... Je cherche presque plus à les habiter physiquement que psychologiquement. Parce que j'ai envie de dire que c'est l'écriture qui s'occupe de la psychologie d'un rôle. Et ce que j'aime dans le métier d'acteur, c'est de faire. Et voilà, il y a un principe très simple. On dit... Il y a le clap et on dit action. Et j'aime acter. Et pour acter, pour moi, c'est surtout dans la gestuelle, dans un maintien, dans un corps. Je cherche à savoir si le personnage, il marche vite, il marche pas vite, il se tient droit, pas droit, la faire vivre.
Et que vous inspire la trajectoire étrange d'Albert Dieudonné ?
C'est vrai que c'est il y a quelque chose de à la fois très beau et de très triste, je trouve, de être le personnage d'un seul rôle. C'est terrifiant, quoi. C'est comme plus on a de personnages, mieux on est. Je pense qu'il faut se protéger, il faut que ça reste un jeu, sinon ça devient une forme de punition. Pour moi, le métier d'acteur, c'est comme le peintre, c'est-à-dire plus on s'éloigne de son modèle, plus on voit les perspectives et plus on arrive à peindre. J'ai vraiment besoin de me reculer pour mieux m'approcher de mon personnage. Je pense qu'on ne choisit pas les rôles par hasard complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que sinon on serait complètement interchangeable, bien qu'on l'est de plus en plus aujourd'hui, malheureusement. Mais si c'est moi qu'on choisit pour jouer tel personnage, c'est que ça veut bien dire que je dégage quelque chose de précis par rapport à un rôle. Et pour moi, c'est un peu 50-50, c'est-à-dire j'amène le rôle à moi et je vais vers le rôle. C'est-à-dire j'y vois des résonances, je me dis tiens, ça je peux comprendre ce qu'elle fait. Et je me dis, tiens, moi, si ça m'arrivait, là, ce qu'elle est en train de vivre, comment je réagirais? Donc, c'est une personnalité qui se dédouble, quoi. On est à la fois deux, et puis on est une seule. C'est très apaisant. Quand je dis que c'est thérapeutique, c'est vraiment ça. C'est comme une très longue analyse, en fait. Parce que le principe de l'analyse, c'est quoi? C'est de parler de soi. Et c'est d'aller chercher des choses inavouées. Je reste jamais en surface de mes rôles. Je vais aller chercher profondément, sans me perdre. Si on doit interpréter la tristesse, j'ai été triste dans ma vie, je ne vais pas me servir de ça, par exemple pour pleurer, je ne vais pas penser forcément à quelque chose de triste, mais je vais aller chercher profondément le sentiment de la tristesse, sans me dire, tiens, je vais penser à ce deuil que je n'ai jamais fait. Ça non, parce que ça, pour le coup, c'est des choses dangereuses. Je pense que ça fragilise trop. Mais je vais aller chercher le sentiment de la tristesse. Et donc, on est face à des choses de la vie dont il ne faut pas avoir peur.
C'est la question de l'identification. Nous passons notre vie à modeler notre identité autour de la question de l'identification, à nous identifier à des gens, à nous identifier à une partie d'eux, et à construire notre identité tout au long de l'existence. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'identité n'est pas une chose fixe, déterminée, forgée dans l'acier ou grave dans le marbre. C'est quelque chose qui évolue tout au long de l'existence, qui évolue par assimilation, par identification à des objets multiples. Le pire du délire mégalomaniaque, un jour, c'est de se prendre pour soi-même, quoi. Parce que soi-même, ça existe et ça n'existe pas, vous voyez. C'est la même question de l'identification. C'est comme si vous étiez, vous, quelqu'un de figé dans le temps, dans l'espace, et que vous ne puissiez pas être influencé par les rencontres, par les amours, par les déceptions, par la vie, quoi. Votre identité, elle est foncièrement mouvante, elle est foncièrement instable, et c'est même, enfin, pour nous, un des critères absolus de la capacité soignante. Si vous êtes dans un dispositif figé, indépassable, vous pouvez rien en faire. Vous savez, les enfants font ça régulièrement, hein. Ils jouent à Superman, Batman, mais même, il y en a de temps en temps, quelques-uns qui passent par les fenêtres, hein. Tellement ils pensent être ces objets de toute puissance. Et puis après, on leur dit, c'est l'heure du goûter, il faut venir à table. Hop, ils laissent tomber et ils vont goûter.
On rentre dans un rôle comme un enfant. Il croit qu'il est Robinson Crusoe, il croit qu'il est le capitaine Nemo, et il y croit, mais complètement. Un acteur, il faut qu'il croie à ce qu'il joue. Y croire, c'est jouer comme quand on était enfant. Et y croire complètement. Et donc, on trouve les bonnes intonations, les bons regards, les bonnes choses. S'il croit comme je suis en train de vous parler, je sais pas, je suis pas en train de vous faire un numéro, là, je suis en train d'essayer de vous parler sincèrement. Voilà. Le secret de la vie est dans l'enfance, hein. De toute façon, ça, alors là, secret de tout est dans l'enfance. Le secret de la sexualité, de l'enfant, de l'intelligence, et alors du jeu d'acteur, vraiment, c'est ça que j'ai découvert avec Ariane. C'est-à-dire que c'est de retrouver cette force de persuasion, d'auto-persuasion, de conviction. Au Théâtre du Soleil, quand on improvisait, on était comme un enfant, et en plus devant un enfant. Ariane avait un regard d'enfant. Elle n'avait absolument pas un regard de metteur en scène qui vous dit, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, tu devrais être plus... Pas du tout, elle était assise, et où elle se marrait, où elle se faisait chier. Si elle se faisait chier, c'est comme ça, comme une mouche, casse-toi, va-t'en. Ou alors, elle était folle d'amour.
Ben oui, mais de temps en temps, quand on est adulte, on n'arrive pas à les goûter, quoi. On continue à être Superman, Batman. Et après, alors c'est un phénomène très répandu, parce que quand on est Napoléon, Superman, Batman, c'est, voilà, on peut repérer qu'il y a quelque chose de l'accrochage à la réalité, quoi. Mais vous pouvez très bien délirer sur le fait que vous êtes psychiatre, journaliste ou corse. Ben, si vous êtes psychiatre, journaliste ou corse, c'est un très bon moyen d'adaptation sociale.
Quand j'interprétais une scène que Gans venait de m'indiquer, je revivais intensément par la pensée les moments historiques que Napoléon avait lui-même vécu. Je me créais une réalité en invoquant des ombres.
Et donc ce personnage incroyable de Napoléon Bonaparte, comme force d'inspiration pour un acteur, selon vous, ça tient en quoi ?
Il a réussi à réaliser un fantasme de toute puissance que nous sommes tous en devoir de réaliser, que fort heureusement nous échouons. C'est quand même un homme qui est capable de fantasmer la question de l'auto-engendrement, qui est quand même capable de se renommer, pour le coup, lui-même, de changer son propre nom, de quitter le nom de son père pour se donner le sien propre, pour créer une lignée de lui-même. C'est-à-dire que comme s'il était issu hors de la génération des hommes. Voilà, figure. Forcément, c'est une figure emblématique de toute puissance. C'est un petit qui devient grand. C'est un mégalo qui voit ses idées s'ancrer dans la réalité. C'est une figure fascinante par ses capacités intellectuelles, d'organisation, militaire. Et il a aussi cet aspect monstrueux. C'est une audace. C'est se mettre en danger sans arrêt. Franchir les limites, franchir ses limites, c'est aller vers le gouffre, tout construire pour essayer de tout détruire, quoi. C'est exactement ce qu'il a fait, quoi. Il avait la possibilité de garder ce qu'il avait obtenu, mais c'était pas ça qui l'intéressait.
Au début du XXe siècle, évidemment, il y a ce culte napoléonien Et puis après, il y a aussi peut-être la vision, je ne sais pas, hein, que pouvait avoir Dieudonné de son rapport avec la terre de Corse aussi. Hein, bon.
Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse.
Ça me fait penser à Nietzsche, hein, qui voulait, à un moment donné, qui envisageait d'aller s'installer à Corté. Corté comme lieu de conception de Napoléon. Pas le lieu de naissance, mais lieu de conception. Alors, peut-être pensait-il qu'il y avait des forces telluriques. Mais vous voyez, donc, il y a à la fois, je dirais, cet aspect-là, la ferveur populaire, le culte napoléonien à l'œuvre. Hein, et puis, d'un autre côté, il y a aussi peut-être ce lien mystique à la terre qui a joué un rôle. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas qualifié pour dire pourquoi Dieudonné a eu, je dirais, ce rapport très particulier qui a eu des conséquences, y compris sur sa fin de vie. Hein. Et à un moment où on peut passer dans quelque chose de pathologique, et ça semble avoir été, d'après les éléments que nous avons, peut-être le cas de Dieudonné, je le dis avec beaucoup de précautions, mais en fait, le fait d'avoir un lien mystique avec des lieux, et les Corses ont souvent un lien qui a une nature mystique avec la Corse. Alors, après, il faut voir jusqu'où ça va tout ça, hein, voilà. Chez Nietzsche, on sait très bien aussi qu'il avait une approche assez particulière de ce genre de choses. Hein. Lui-même n'a pas fini en pleine santé mentale. Après, plus simplement, plus sobrement, le fait de dire qu'un lieu détermine les peuples et les personnalités, je pense profondément que c'est vrai. La fréquentation d'un lieu où on a passé sa vie, évidemment, ça a des conséquences sur ce que l'on est.
Il semblerait donc que ce soit au moment du tournage en Corse qu'ait eu lieu cette espèce de folie collective autour du tournage et autour du personnage d'Albert Dieudonné. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
On est proche de la reconnaissance commune d'une population autour d'un trait qui va les unir. C'est les manifestations religieuses, c'est Pâques au Vatican, c'est... voilà. Et puis après, la question du lieu, ça va être la question d'une... à un moment donné, d'une surcharge de symbolique qui va vous envahir et vous dépasser. D'où ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Vous savez, Stendhal, quand il est allé à Florence, il a eu un moment de dépersonnalisation, de délire, de vacillement de sa psyché, tellement il a été envahi par la surcharge symbolique de que représentait Florence. Les palais, les œuvres d'art, voilà, il a été envahi, dépassé. Sa capacité à gérer, sa capacité psychique à gérer tout cela, a été un temps dépassé, ou en tout cas elle a vacillé.
Monsieur Dieudonné, vous venez de dire Napoléon était corse, vous ne l'êtes pas.
Je suis citoyen honoraire d'Ajaccio quand même. D'origine, je suis né avenue Kléber à Paris, dans le 16e arrondissement. Encore un général de Napoléon. Partout où je vais, je ne peux pas, mais il faut toujours que Napoléon soit présent ou sous-jacent.
Philippe Cobert, est-ce qu'il y a des films qu'il faut éviter ? Est-ce qu'il y a des rôles qu'il faut éviter, dont il faut se méfier ? Est-ce que tout est possible au cinéma ?
Il y a un exemple quand même, je voudrais citer, d'acteur quand même pour moi qui vraiment fait le job, c'est Bruno Ganz, La Chute. Parce que ce film a été extrêmement critiqué quand il est sorti, on allait le voir presque en cachette comme un film porno. Ouais. Et avec le temps, ce film a pris toute sa mesure. Là, ce qu'a fait Bruno Ganz dans Hitler, c'est prodigieux. Parce qu'il n'y a pas un film qui démolit plus Hitler que ce film-là, où on voit un pauvre mec, un minable, un mauvais stratège, l'inverse d'un génie, mégalo, pourri, nul, débile. Il est Hitler, il est... Et puis c'est pas rien comme boulot, quoi. Et ça, pour moi, c'est un grand exemple d'œuvre d'acteur. Il a pris un énorme risque en jouant Hitler comme il l'a joué, c'est-à-dire en le jouant à ce point d'intimité, en allant chercher en lui Hitler, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Il va chercher l'Hitler qui est en lui. Il va chercher, lui, ce qu'il y a d'Hitler dans lui. Je pense que c'est dangereux. Je pense que le soir, il devait pas avoir le moral, le mec... Je pense qu'il devait sentir qu'il allait faire scandale en jouant. Et je me demande si le scandale du film, c'est pas l'interprétation qu'il a faite, qui est tellement virulente, tellement ambiguë, justement. C'est-à-dire en disant Hitler, c'est un homme. Hitler, c'est moi. C'est ça qui a fait scandale. C'est l'affaire psychologique, c'est-à-dire le truc interdit, qu'on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et il l'a fait. Moi, je pense qu'il savait qu'il prenait des risques. Ah oui, oui. Non seulement des risques intimes, psychologiques, par rapport à lui-même, mais par rapport à sa carrière, sa réputation, par rapport au...
Donc, il y a des rôles dangereux.
Si un rôle n'est pas dangereux, c'est pas un rôle. Hein.
« Le Napoléon d'Abel Gance est donc un film particulier dans l'histoire du cinéma. C'est en quelque sorte le premier film maudit de l'histoire du cinéma. Il a été détruit, coupé, recoupé, perdu, retrouvé. On n'en finit pas. Cette grande difficulté pour l'exploiter normalement compte tenu de ses contraintes de durée technique, etc., fait que assez vite ce film a disparu de la circulation des films normales, et peut-être que ça a contribué aussi à sa légende.
Eh bien, c'est là le problème. C'est parce que comme c'est un film surdimensionné, dans sa version complète, ça dure à peu près 7 heures.
Christine Leteux, historienne de cinéma.
Il y a le gros problème de l'exploitation avec le triptyque, donc où il faut ces trois projecteurs synchrones, etc. Donc en fait, l'exploitation, c'est pas très très bien passé, quoi. Il y a eu des projections donc exceptionnelles, la toute première donc qui a eu lieu à l'Opéra de Paris, donc un orchestre, etc. Mais le problème, c'est qu'après, comment exploiter un film pareil ? C'était un film tellement surdimensionné qu'il était fait peut-être plutôt pour être présenté dans un festival, dans un cadre spécial, mais pour être exploité en salle. Sur la durée, très très difficile, quoi. Ou alors, il faut supprimer les triptyques, ou il faut le scinder en plusieurs morceaux. Enfin, c'est très compliqué, quoi.
Ce film, c'est un peu comme le tombeau de Toutankhamon. C'est un peu une espèce de malédiction qui a rendu les gens un peu dingos. À commencer par Gans lui-même, qui a pas arrêté de couper, recouper, détruire son film. Il en a été le génie créateur, mais il en a été le pire ennemi aussi. Dieudonné, on en a parlé, qui est quand même sorti des radars et mentalement a eu quand même quelques soucis. Cette Bambi Ballard, qui est une espèce de furie, on sait pas d'où elle arrive, elle repart, on sait plus où elle est, machin. Il y a quand même quelque chose, quand on s'en approche d'un peu trop près, on se met un peu en danger.
En fin de compte, on va pas parler d'un film maudit, mais d'un film à l'ambition démesurée.
Jean-Pierre Mattei, fondateur de la Cinémathèque de Corse.
Qui correspondait plutôt à une production américaine qu'à une production européenne, française. Le malheur du film de Gans, c'est qu'il arrive à la fin du muet. Et quand il va sortir, l'économie du cinéma est en pleine ébullition, et donc le muet, on va l'écarter. Donc, à un certain moment, c'est le problème du génie, c'est que quelquefois, il est trop en avance sur son temps. Il fait partie de notre histoire du cinéma et que la Corse est en droit d'être fière d'avoir eu la priorité du tournage.
L'homme qui voulut être Napoléon. Deuxième partie, le vertige intérieur. Avec Christine Leteux, Philippe Cobert, Hervé Dumont, Jean-Pierre Mattei, Jean-Guy Talamoni, Jean-Marc Olivesi, Thierry Frémont, Sandrine Bonner, Jean-Pierre Salvarelli, Céron et l'homme vinyle. Prise de son, Adrien Bacci. Documentation INA, Anne Brulant. Mixage, Valérie Lavalard. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, un documentaire de Marc Guidoni, réalisé par Laurent Polleret.
Justement, on dit que tous les acteurs qui ont interprété le rôle de Napoléon se prennent après dans la vie pour Napoléon. Est-ce que ça vous est arrivé aussi ?
Non, ça ne m'est pas arrivé. C'était un homme charmant, doublon, qui était directeur du Gaumont Palace au moment où le film de Gans sortait, qui m'a fait cette publicité, n'est-ce pas ? Mais enfin, je dois dire que j'ai très bien connu Duquesne, le créateur de Madame Sans Gêne, aux côtés de Réjeanne. Eh bien, lui, je crois, se prenait pour Napoléon. Il me montrait un jour une médaille et il me disait, « Voyez, Dieudonné, c'est lui qui me l'a donnée. »
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il y aura de l'électricité dans l'air, mais c'est une autre histoire.